Donc il leur dit, voyez, Dieu l'a permis, ça vous a permis d'être sauvés de la famine. C'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez cet esprit de pardon en disant, Dieu l'a permis ainsi. Eh bien, on retrouve exactement le même discours chez l'apôtre Pierre quand il va dire aux Juifs, bon, bien sûr, vous avez crucifié le Seigneur, mais je sais que vous l'avez fait par ignorance. Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit. En ta descendance seront bénies toutes les peuplades de la terre. Vous voyez, c'est la même chose. Bien sûr, vous l'avez crucifié, mais bon, voilà, Dieu est prêt à vous pardonner parce que c'était son dessein que Jésus soit crucifié pour sauver l'humanité. Vous voyez le parallèle qu'on peut faire entre ces deux récits. Ensuite, il y a Aaron. Bon, là, c'est quand même bien développé dans l'Épître aux Hébreux. C'est vrai que Aaron, donc je rappelle, c'est le frère de Moïse. Il a un rôle un petit peu d'intermédiaire entre le peuple d'Israël et Dieu. Donc Jésus aussi a ce rôle d'intermédiaire. Bon, je ne veux pas trop développer. Par exemple, je vais prendre le troisième passage que j'ai cité, Exode 30, verset 8. Aaron fera fumer l'encens aromatique. Il fera fumer un encens continuel devant l'Éternel en vos générations. Et l'encens représente, bien sûr, tout ce qui va rendre Dieu, quelque chose qui est agréable à Dieu et qui va rendre Dieu propice à son peuple, favorable à son peuple. Et on lit dans l'Épître aux Éphésiens que Jésus nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Voilà, c'est comme si le Seigneur faisait monter un encens devant Dieu qui fait que dorénavant, Dieu nous accorde sa paix. Bon, il y a encore beaucoup de détails, mais c'est peut-être un petit peu long. Et puis comme c'est très bien développé dans l'Épître aux Hébreux, je ne veux pas trop revenir là-dessus. Il y a également David, qui ressemble à Jésus sous plusieurs aspects. Déjà, c'est que c'était un berger. Il a défendu son troupeau. Comme Jésus dit, je suis le bon berger met sa vie pour ses brebis. On se rappelle que David avait risqué sa vie pour combattre contre le lion et l'ours. Également dans le combat contre Goliath, là aussi je trouve que c'est frappant. Quand Goliath tombe sous le coup de la pierre lancée par la fronde de David, que fait David? Il court, il se tient sur le Philistin, il prit son épée, il la tira de son fourreau et le tua, et lui coupa la tête. Il prend l'arme de l'ennemi, de Goliath, pour le mettre à mort. Et donc, je verrais volontiers dans cette épée une image de la mort, et dans Goliath, l'image de Satan. Parce que, pourquoi? Parce que Jésus, par la mort, c'est comme s'il avait pris l'épée de Satan, qui est la mort, par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Avec sa propre arme, Jésus est entré dans la mort, il a donc utilisé l'arme du diable pour vaincre le diable. Comme David a pris l'arme de Goliath pour vaincre Goliath. Oui. C'est ce parallèle qu'on peut voir. Bon, il y a aussi que David a été trahi par un de ses proches conseillers qui s'appelait Achitophel, comme Jésus a été trahi par Judas. Achitophel s'est suicidé à la fin de l'histoire. Il s'est étranglé de la même manière que Judas s'est pendu. Donc voilà, un traître, un proche qui était un traître qui s'est donné la mort. Et puis on voit ensuite comment David, le roi élu par Dieu, s'assoit devant Dieu. C'est dit comme ça. Le roi David entra et s'assit devant l'Éternel, comme Jésus monta au ciel et s'assit à la droite de Dieu, comme on le lit à la fin de l'Évangile selon Marc. Voilà, donc là aussi des ressemblances. Esther également. Les femmes ne sont pas en reste dans les images qui annoncent le Seigneur Jésus. Je trouve qu'Esther est une très belle image de Jésus dans ce sens qu'elle a été une médiatrice entre le roi de Perse, qui était Assuérus ou Xerxès, et le peuple d'Israël. Les Juifs ont failli être mis à mort, mais grâce à l'intervention d'Esther, elle a été un petit peu le sauveur de son peuple. Et là aussi, il y a des expressions qui rappellent un peu ce qu'a été le Seigneur Jésus pour nous. Vous rappelez que la reine Esther s'approche du roi et elle risque la mort, parce qu'on ne peut pas s'approcher du roi si on n'a pas été invité. Mais voilà, aussitôt que le roi vit la reine Esther, se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux. Voilà, quelqu'un qui a faveur aux yeux du roi, à partir de là, tout lui accordé. Et de la même manière, il est dit de Jésus qu'il avait la faveur de Dieu sur lui. Alors Esther va demander la vie sauve pour son peuple. Et Jésus nous offre aussi la vie éternelle. On peut continuer encore un peu, il va y avoir là un ennemi qui s'appelle Aman, c'est le premier ministre du roi Assuérus. Cet Aman a préparé une potence pour qu'on y pende Mardoché, qui est un juif. Eh bien, Aman va se retrouver pendu à cette potence. De la même manière, on a fait une croix pour crucifier Jésus. Et pourtant, c'est sur cette croix que Jésus a triomphé du diable et de ses anges, puisqu'on le lit dans l'Épître aux Colossiens. Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Voilà. Cette croix qui a été dressée pour mettre à mort Jésus, en fait, est l'objet de son triomphe. Et puis, il y a cette fête des Pourim, là, qui va être établie après la délivrance d'Esther, qui continue d'ailleurs chez les Juifs. On dit bien que de génération en génération, il faut maintenir la mémoire de cette délivrance qui avait lieu au temps d'Esther. Et ça rappelle vraiment ce qu'est la Sainte Cène pour nous chrétiens, qu'on fait en mémoire de ce que Jésus aussi a fait pour nous sauver, et dont il dit, dont Paul dit qu'il faut annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez, il faut maintenir ce souvenir jusqu'à la fin. Comme c'était aussi très important pour les Juifs de perpétuer la mémoire de cette délivrance. Un parallélisme entre ces deux fêtes, une fête juive, une fête chrétienne, en mémoire d'une délivrance. Voilà, alors je vais passer assez rapidement sur les types mineurs. On peut trouver des petites choses chez tous ces personnages. Adam, déjà. Vous avez remarqué que Adam, lorsque Dieu a créé Ève, il a fait dormir Adam, ensuite il a ouvert son côté, il a pris une côte et il a créé Ève. Alors, image de la mort de Jésus, Jésus meurt, et grâce à sa mort, son côté est percé aussi, comme le côté d'Adam est percé pour prendre la côte, et c'est ce qui va donner la vie donc à Ève en ce qui concerne Adam, et ce qui va donner la vie éternelle aux croyants et donc à l'Église en ce qui nous concerne. Vous voyez ? Le sommeil de la mort, le côté percé, la vie donnée à celle qui est l'épouse. L'épouse de Adam, Ève, l'épouse de Christ, l'Église. Et il dit ceci est haut de mes os et chair de ma chair. Et Jésus dit de nous que nous sommes son corps. Hein ? Vous voyez le parallélisme entre les deux couples, on peut te dire. Également Noé. Alors il est dit de Noé qu'il a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Et donc par son moyen, bon, Dieu a dit je vais exterminer l'humanité. Mais Noé trouva faveur aux yeux de Dieu. Et donc il va y avoir l'arche qui va permettre aux humains d'être sauvés. Donc un seul juste qui sauve l'humanité de la destruction. Également Melchisédek, alors c'est moins connu, hein, c'est un personnage un peu mystérieux qui va rencontrer Abraham à un moment donné. Il est appelé roi de Salem, c'est-à-dire prince de paix, comme Jésus est prince de paix. Il va donner du pain, partager le pain et le vin avec Abraham, ce qui évoque aussi la Sainte Cène. Donc ce Melchisédek, un personnage assez étrange d'ailleurs, qui semble être une sorte de préfiguration de ce qu'est Jésus pour nous. Moïse également, sous certains aspects, moins qu'Aaron, parce qu'Aaron c'est vraiment le grand prêtre, c'est l'intermédiaire, l'intercesseur. Mais sous certains aspects aussi Moïse, il est envoyé par Dieu, il est le libérateur du peuple dans l'Exode, le conducteur. Lui aussi va être menacé dès sa naissance, comme Jésus a été menacé aussi par Hérode à sa naissance. Et puis bien souvent il prie pour le peuple et il sauve systématiquement le peuple de la punition divine. Donc comme Jésus est aussi notre médiateur avec Dieu. Samson, alors là je dirais que c'est vraiment un type très mineur parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la vie de Samson qui ne ressemblent pas du tout à Jésus. Il avait beaucoup de défauts quand même ce Samson. Mais juste une chose, la manière dont il est mort. On se souvient qu'il avait été attaché à deux colonnes dans un temple païen et au moment de sa mort il a poussé ces colonnes parce que les forces sont revenues un petit peu, ses cheveux ont commencé à repousser. Et donc il a tué plus d'ennemis dans sa mort que dans sa vie. Alors, vous voyez, il remporte sa plus grande victoire dans sa mort, comme Jésus aussi a remporté sa plus grande victoire par sa mort. Et il y a également Boaz ou Boaz, donc qui a épousé Ruth, hein, c'est l'histoire de Ruth. Ruth qui était une Moabite, donc une étrangère. Bon, les Juifs, c'est pas tellement possible d'épouser une étrangère. Et pourtant, Boaz va le faire. Donc c'est une image aussi de Christ qui va sauver des humains issus des nations, des goïms, hein, des non-juifs, qui vont venir à lui et qui vont être adoptés un petit peu dans le cercle des bénédictions. Salomon également, bon, un homme plein de sagesse, qui a un règne de paix, donc c'est Jésus sous l'aspect du prince de paix. Et puis, dans le récit de Daniel, on se souvient que les amis de Daniel ont été mis dans une fournaise. Et là, le récit nous dit que les hommes voient les trois amis de Daniel, plus un quatrième, qui est semblable à un fils de Dieu. Et les liens, ils ne sont pas brûlés. Les trois amis ne sont pas brûlés. Il y a seulement leurs liens qui sont brûlés. Alors ça, c'est vraiment aussi une image que Jésus est pour nous. C'est un peu comme si nous étions morts avec Christ, comme nous dit l'Épître aux Galates. Et par cette mort avec Christ, passage dans le feu avec lui, nous vivons dans une vie nouvelle. Et là, nous sommes déliés de l'esclavage du péché. Et on voit aussi là une préfiguration de la nouvelle naissance, si on veut. Bon, et puis il y a Jonas également qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du cétacé, comme Jésus a été 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Voilà donc des types un peu plus mineurs. Voilà, alors ensuite ça peut être aussi des animaux ou des objets. J'ai aussi classé entre les types ce qui me semble majeur et ce qui me semble mineur. Il y a l'arche de Noé, j'ai parlé de Noé tout à l'heure, mais il y a aussi l'arche. Parce que la pluie va tomber sur la terre, ça va tuer tous les humains, sauf ceux qui sont dans l'arche. Alors cette fois-ci, l'arche représente Jésus. Enfin, c'est plus Noé, c'est l'arche. Lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes abrités par lui, eh bien nous ne craignons plus le déluge qui est comparable au jugement de Dieu. Entrer dans l'arche, donc, c'est mettre sa foi en Jésus. Noé et ses fils représentent donc les croyants qui ont mis leur confiance en l'arche, hein, donc en Jésus pour nous. Et les autres, ce sont les non-croyants qui s'exposent donc au jugement de Dieu. Donc là, c'est l'arche qui représente Jésus. Bon, il y a bien sûr l'agneau pascal. Alors ça, c'est vraiment un type extrêmement fort de l'Ancien Testament. Donc un agneau sans défaut, comme Jésus a été sans péché. On va le mettre à mort, on va prendre de son sang, on va le mettre sur les poteaux et les linteaux des portes. Donc on est à l'abri du sang de l'agneau, de la même manière que nous sommes à l'abri du sang de Christ. On va manger sa chair. Comme Jésus a dit, il faut manger ma chair, c'est-à-dire vous approprier mon sacrifice. Et donc, à ce moment-là, le jugement, l'ange frappeur va passer par-dessus les maisons des Hébreux à cette époque-là, comme nous aussi, nous serons à l'abri du jugement de Dieu si nous sommes à l'abri du sang de Christ. Il y a la manne aussi, peut-être un petit peu moins évident. La manne, c'est la nourriture des Hébreux dans le désert, dans la traversée du désert, qui va les accompagner jusqu'à l'entrée dans le pays. Il nous est précisé qu'elle vient du ciel, elle tombe le matin avec la rosée, et qu'elle a un goût de gâteau à l'huile ou de biscuit à l'huile. Alors c'est une image de Jésus qui est un peu comme notre nourriture dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de sa présence, d'être nourris de lui, oui. Alors, lui aussi vient du ciel, c'est lui qui nous permet de survivre dans ce monde qui est comme comparable à un désert, peut-être un lieu un petit peu inhospitalier. Et puis avec ce goût de l'huile, par le Saint-Esprit qui vient nous donner la force de traverser justement les difficultés de la vie. L'huile est toujours image du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau aussi. Bon, il y a également l'Arche de l'Alliance. Alors c'est une arche, c'est intéressant de voir quels sont ses composants. Elle est en bois de sittim, donc une sorte d'acacia extrêmement résistant. Elle est plaquée d'or avec un couvercle d'or qui s'appelle le propitiatoire, c'est-à-dire que ce qui fait que Dieu est propice et favorable. Donc le bois va représenter l'humanité de Jésus, l'or va représenter sa divinité, parfaitement Dieu, parfaitement homme, et puis ce couvercle va montrer que c'est lui qui nous permet d'avoir la faveur de Dieu, comme le propitiatoire. Même le contenu de l'arche est intéressant. Il y a donc la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, le bâton d'Aaron, il y avait les tables de la loi, et puis il y avait une cruche avec de la manne à l'intérieur. Et je trouve que ça fait un peu penser à ce que Jésus a dit dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le bâton hein, du pèlerin, la loi, la vérité, alors le bâton c'est le chemin, la loi c'est la vérité, et la manne c'est ce qui permet d'entretenir la vie. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le serpent des reins, bon là c'est facile parce que Jésus lui-même l'a dit, hein, qu'il s'est comparé lui-même au serpent des reins. Donc ce serpent, vous vous rappelez l'histoire, il y a des serpents qui mordent les Hébreux dans le désert, c'est dans le livre des Nombres. Ceux qui sont mordus par les serpents meurent, mais voilà, Dieu propose une solution, il faut mettre un serpent en bronze sur une perche, et quand on regarde ce serpent en bronze, on est guéri. Alors ça c'est très comparable à la croix, de la même manière, lorsque nous regardons à la croix, nous sommes tous mordus par le péché, on peut dire, et donc condamnés d'une certaine manière. Notre seul moyen de salut, c'est un regard de foi vers la croix, et c'est ce qui nous sauve. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même un peu gênant, parce que ça veut dire que Jésus est comparé au serpent. Et le serpent, c'est plutôt une image de Satan, hein, pas tellement de Jésus. Mais regardez cette expression de 2 Corinthiens 5, celui qui n'a pas connu le péché,